Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 4 février. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un nouveau plan cancer avec des moyens supplémentaires pour développer la prévention et le dépistage ciblé. 4 nouveaux cancers sur 10 pourraient être évités. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre le cancer. Les autres titres, Agnès.
Le désarroi des familles face aux nouvelles restrictions des visites dans les EHPAD. Une journée de mobilisation contre la précarité grandissante due au Covid. Une nouvelle pomme bientôt dans votre panier, son nom Inogo. Enfin, c'était son premier Vendée Globe et elle est la femme la plus rapide autour du monde en solitaire sur un monocoque. Chapeau, Clarisse Crémer.
Oh oui, les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Un peu de grâce et un peu de rêve, Nicolas. Danseur étoile à l'Opéra de Paris, il publie Danser, où il raconte le bonheur, la dureté aussi du métier de danseur. Vous allez adorer.
Adorer.
Hugo Marchand sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. On se retrouve à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le sociologue Stéphane Beau et l'historien Gérard Noiriel. Il publie « Race et sciences sociales », essai sur les usages publics d'une catégorie. C'est aux éditions Agone. Le standard vous attend, il est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter. 4 millions de Français vivent avec un cancer, 150 000 en meurent chaque année et pourtant 4 nouveaux cancers sur 10 seraient évitables en améliorant la prévention. Le tabac, l'alcool, une mauvaise alimentation, l'obésité, le manque d'activité physique sont des facteurs de risque connus. Au moment où Emmanuel Macron doit dévoiler la stratégie de lutte contre le cancer pour les 10 prochaines années, l'Institut Gustave Roussy à Villejuif plaide pour un dépistage ciblé des publics les plus à risque. Julia.
Les programmes de dépistage proposés aujourd'hui pour le cancer du sein ou le cancer colorectal ont leur mérite, mais aussi leurs défauts, notamment leur taux d'adhésion. 35% seulement pour le cancer colorectal et surtout, ils ciblent une classe d'âge, mais sans distinction des risques propres à chacun. Or, on n'est pas égaux face au cancer. Certains ont des risques augmentés, qu'on est d'ailleurs beaucoup plus à même d'identifier aujourd'hui. Ces risques sont liés à leur mode de vie, leur environnement, leur patrimoine génétique. C'est ce public que vise le programme Interception. L'étude espère inclure 5000 patients dans les 3 ans qui viennent. Grâce à un questionnaire précis, leur médecin de ville identifiera le risque et si ce risque est avéré, les patients seront adressés au centre anti-cancer qui affinera la prédiction et leur proposera en conséquence un programme de prévention très personnalisé. Suzette Delaloge est oncologue médicale à l'origine du programme.
Il peut y avoir du dépistage particulier pour des personnes au risque de cancer du poumon en raison du tabac. Pour un risque de cancer colorectal, les aspects nutritionnels vont être plus incisifs. Comment manger plus de fibres, etc.
Objectif, prévenir ou repérer au plus vite un cancer chez ces publics à risque. Le programme permettra de déterminer si ce suivi génère des résultats probants et s'il suscite l'enthousiasme et l'adhésion des patients. Si ça marche, il aura peut-être vocation à être généralisé. On estime que 40% des personnes qui vont avoir un cancer pourraient ainsi être repérées avant le stade clinique.
Emmanuel Macron devrait annoncer aujourd'hui un plan pour les 5 prochaines années doté d'un budget d'1,7 milliard d'euros en hausse de 20%. Bruxelles aussi entend débloquer 4 milliards d'euros pour la prévention. L'Union européenne qui souhaite développer une politique de santé commune pour que tous les malades du cancer aient la même chance de survie où qu'ils vivent. Cette nécessité d'une meilleure coordination européenne est particulièrement criante dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses variants. Selon les résultats encore partiels de l'enquête Flash menée fin janvier, le variant anglais représenterait 14% des cas en France. Nous verrons cela en détail dans le journal de 7h30. La menace de ces nouveaux variants a poussé les EHPAD à revoir une nouvelle fois leur protocole pour les visites avec des situations plus ou moins bien acceptées. Hélène Chevalier.
Sabrina Deliri ne décolère pas. Cofondatrice du Cercle des proches aidants en EHPAD, elle a reçu un message d'une famille d'un résident en Corse. L'établissement a suspendu les visites pendant la campagne de vaccination et ce, à la demande de l'Agence régionale de santé.
Il y avait déjà une semaine et là, ils ont re-interdit 15 jours de plus, alors qu'il n'y a pas de Covid.
La maman de Sabrina Deliri est elle-même hébergée dans un EHPAD du 15e arrondissement de Paris et subit, elle aussi, de nouvelles restrictions.
Moi, encore hier, j'étais devant l'EHPAD avec ma maman au soleil. Elle était contente. On nous a fait rentrer dardard en nous disant qu'on n'avait pas le droit de sortir, alors qu'on était à 1 mètre de la porte d'entrée, parce que le directeur a dit pas de sortie. Il ne devrait pas être directeur d'EHPAD, mais il devrait être surveillant pénitentiaire. Il interdit tout.
Un protocole plus restrictif vient en effet d'être envoyé aux établissements établissements médico-sociaux. Il recommande la suspension des sorties des résidents à l'extérieur et l'interdiction des visites des proches si un cas Covid apparaît. Florence Arnaise-Maumet est la déléguée générale du CINERPA, le syndicat des EHPAD privés.
On a des établissements de 80 résidents en moyenne, plus 50-60 salariés. Un cas de Covid est vite arrivé. Donc, suspension totale des visites pendant 10 jours au premier cas de Covid, c'est une pression sur les directions d'établissement qui est hors norme.
Et une nouvelle menace d'isolement pour des personnes âgées déjà très fragilisées après bientôt un an de restrictions de visite.
Un protocole, mesures de lutte contre la pandémie. Au menu ce soir de la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran, rendez-vous à 18h. Des mesures de soutien à l'économie, plus de 400 milliards d'euros mobilisés depuis mars dernier, entre les aides directes et les prêts garantis par l'État. Mais le plan de relance est mal ciblé, estiment les syndicats, CGT, FSU et Solidaires, qui appellent à manifester aujourd'hui pour la préservation et le développement de l'emploi et des services publics et contre la précarité. Hélène Filly.
Étudiants, enseignants, salariés, avec les trois premières mobilisations de janvier, les syndicats espèrent avoir réussi à lancer un mouvement massif, car l'inquiétude est générale, juge la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzelletti.
La colère et les sujets de mécontentement, ils sont multiples. Ce que vivent aujourd'hui les salariés, ce sont des moments particulièrement difficiles, des conditions de travail très dégradées, des angoisses notamment liées aux perspectives professionnelles, aux menaces de licenciement. Nous, on doit essayer en tout cas de permettre à ces salariés, ces personnels, de se retrouver pour pouvoir justement porter des propositions pour que tout cela change.
Face à la colère qui monte et à une précarité croissante, le plan de relance ne fait pas assez, juge l'intersyndicale. Et quelle réponse à la détresse d'une partie des étudiants, s'interroge Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF.
Là, on est tellement précaire que on n'arrive plus à payer nos loyers, on n'arrive plus à payer notre électricité. Et donc, on a besoin aussi d'une aide financière directe. C'est pour ça que nous, ce qu'on demande dans notre plan de 1,5 milliard d'euros, c'est que tout de suite, on augmente les bourses et les aides au logement. On en a marre d'avoir tout le temps du blabla, mais pas d'action concrète.
L'intersyndicale veut maintenant peser pour un plan de soutien massif aux plus fragiles et pour des aides publiques conditionnées au maintien de l'emploi.
Et à Paris, le rendez-vous est donné place de la République à 14h. Le Sénat, à majorité de droite, a adopté la nuit dernière le projet de loi de bioéthique, mais amputé de sa mesure emblématique, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Rejeté également la possibilité pour les femmes de congeler leurs ovocytes sans raison médicale, des dispositions qui pourront être rétablies par les députés.
Il est 7h08, l'ouverture aujourd'hui près d'Alger du procès des assassins présumés d'Hervé Gourdel. Agnès, un guide de montagne français.
L'homme avait été enlevé par un groupe djihadiste affilié à l'État islamique avant d'être décapité en représailles aux frappes françaises en Irak. C'était il y a presque 7 ans. Claude Guibal.
Le 21 septembre 2014, dans le massif du Djurdjura, Hervé Gourdel, 55 ans, rentre de randonnée. Ce guide de montagne français est arrivé quelques jours plus tôt dans cette région de Kabylie où des amis d'escalade algériens l'ont invité à marcher au milieu des sommets à 2000 mètres d'altitude. Sur le chemin du retour, les 6 hommes sont arrêtés par un groupe de djihadistes qui emmènent le français. Quelques jours auparavant, Daesh a appelé au meurtre de Français en représailles aux frappes que vient de lancer la France auprès des États-Unis en Irak. L'enlèvement est revendiqué par Jundel Khilafa, les soldats du califat, un groupe qui vient de changer d'allégeance pour rejoindre l'État islamique. Quelques jours plus tard, une vidéo adressée à François Hollande annonce sa décapitation. Le corps d'Hervé Gourdel est retrouvé en janvier 2015, 20 km plus loin. Alors que le procès ouvre aujourd'hui, beaucoup de zones d'ombre subsistent. Les compagnons de marche d'Hervé Gourdel comparaîtront libres devant le tribunal de Dar El Beida pour avoir hébergé un étranger sans autorisation. Deux autres personnes, dont le principal suspect, membre de Jundel Khilafa, sont poursuivies pour enlèvement, torture et meurtre avec préméditation.
Récit de Claude Guibal. Le Lot-et-Garonne toujours en alerte rouge face au risque de crue de la Garonne, notamment situation difficile à Marmande et Langon. La plus grande prudence est recommandée si vous devez circuler. Reportage à Marmande dans le journal de 8h. 17 départements sont également en vigilance orange dans le sud-ouest, mais aussi le nord et l'est de la France.
Et un faire-part de naissance à présent.
L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement est heureux de vous annoncer la naissance d'une nouvelle pomme. Son nom, Inogo. Elle pourrait bien concurrencer l'historique Golden. L'Inogo est le fruit de près de 30 ans de recherche. Delphine et nous, la goûter pour nous.
C'est une grosse pomme jaune au goût sucré et à la texture ferme et juteuse, résistante à la tavelure, la principale maladie qui touche les pommiers. Pour arriver à ce résultat, il faut remonter en 1992, début de l'expérience. François Lorenz, ingénieur de recherche à l'INRAE.
On prend le pollen d'une variété qu'on va poser sur le pistil d'une autre variété. Donc ça se passe dans les vergers, au printemps, c'est très bucolique. Et ensuite, on attend que les pommes se forment, on récolte les pépins. Et il y a toute une série de tests ensuite pour arriver à cumuler tous les objectifs, c'est-à-dire la résistance aux principales maladies, la qualité, la productivité, la régularité de production et la conservation des fruits.
Mais pourquoi créer une nouvelle variété de pommes quand il en existe déjà plusieurs milliers pour s'adapter à une planète qui change, entre autres, explique François Lorenz.
Toutes les conséquences du changement climatique, c'est un sujet très compliqué. Ça joue sur l'eau, sur la phénologie, sur la floraison des arbres, sur plein d'événements qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est vraiment là où la recherche publique a son intérêt, c'est de pouvoir réfléchir et de mettre en place des choses avant que ça arrive.
Comme la lutte contre les pesticides, la pomme Inogo, plus résistante, en a moins besoin. Mais pour la savourer, il faudra encore patienter.
Avant qu'il y ait suffisamment d'arbres qui soient plantés, suffisamment de fruits dans les arbres et que les consommateurs la connaissent, il va falloir peut-être encore 5-10 ans.
100 000 pommiers Inogo ont déjà été plantés dans les vergers français.
Impatience donc avant de goûter cette nouvelle pomme. Le classico de dimanche entre l'OM et le PSG sera bien retransmis à la télé, sur Téléfoot, l'actuel diffuseur de la Ligue 1, mais aussi sur Canal+. Le PSG qui a battu Nîmes hier soir 3-0, match nul pour Marseille de partout face à Lens. Enfin, 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes. C'est donc le temps qu'il aura fallu à Clarisse Kremer pour boucler son tour du monde en solitaire en monocoque. Arrivée hier sous le soleil de la navigatrice au Sable d'Olonne, première femme de cette édition du Vendée Globe, 12e au classement général. Nouvelle venue dans la course au large, elle a surpris tout le monde, y compris ses proches, que Jérôme Val a rencontrés.
Sa première navigation sur ce bateau avec son équipe, c'était à l'été 2019. Sa première fois seule en mer sur ce monocoque, c'était à la fin de la même année entre le Brésil et la France. Un an plus tard, voilà Clarisse Kremer de retour de son premier tour du monde, bluffant pour son compagnon, lui aussi navigateur, Tanguy Le Turquet.
Clarisse, avec sa très faible expérience, malgré qu'elle soit dans la meilleure équipe, avec sa faible expérience, je me suis dit, elle peut abandonner. En tout cas, je m'étais préparé mentalement à ça. Moi, mon seul rôle, c'était de la soutenir émotionnellement et mentalement. Et donc forcément, je me disais, si elle abandonne, faudra être là, quoi.
Cette diplômée d'HEC de 31 ans, propulsée très vite dans le grand bain d'un Vendée Globe, a mis du temps à prendre ses marques. Clarisse Kremer n'a pas caché ses doutes et ses peurs au début de la course, mais elle a fait preuve de maturité, se félicite Armel Lecléache. Vainqueur du Vendée Globe il y a 4 ans, il a formé Clarisse Kremer sur ce bateau.
Un bateau peut-être très expérimenté, puis une jeune navigatrice un peu moins, mais finalement c'était le bon dosage. Cette formation accélérée lui a permis d'arriver au départ avec quelques clés pour réussir son pari. Elle a su le faire avec beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, d'envie, d'émotion.
En élève attentive, Clarisse Kremer a bien retenu la leçon. Elle est devenue hier la femme la plus rapide autour du monde en solitaire sur un monocoque.
Et 13 navigateurs sont encore en mer. Les prochains attendus au Sable d'Olonne sont Jérémy Bayou et Romain Attanasio.
Merci Agnès Soubiran.